Retour donc d'abord sur cet accord historique obtenu à l'arraché par les dirigeants européens en début de semaine après une centaine d'heures de négociations. Un accord sur deux volets, un plan de relance de 750 milliards d'euros et le budget européen pour les 7 années à venir. Un accord sous la houlette du président du Conseil européen, Charles Michel, qui est notre invité ce soir. Alors avant de commenter ces différents accords avec vous, je vous propose de faire le point sur le contenu de l'accord, à la fois salué et critiqué hier par les députés européens. Annick Cappel.
À peine l'encre de l'accord séchée, Charles Michel devait convaincre les eurodéputés. Gonflé à bloc par un texte conclu au forceps, il en souligne le caractère historique.
In less than 2 months, we hammered out a deal of more than 1.8 trillion euros. And this response is massive. Compared to the size of its economy, Europe's response is greater than that of the United States or China.
Le premier volet de l'accord, le plan de relance de 750 milliards d'euros, est plutôt bien accueilli par le Parlement.
Sul recovery noi siamo molto soddisfatti. Non dovevamo abbassare la soglia dei 750 miliardi e questo è un risultato che consideriamo molto molto importante.
Mais l'autre volet de l'accord, le budget, passe beaucoup moins bien au sein du caprice des dieux, car il a fallu raboter certaines ambitions dans plusieurs domaines.
Le digital, la recherche, la jeunesse et l'Erasmus, le programme de santé en situation de crise qui est essentiel, c'est une des leçons à apprendre de cette crise, ne peuvent pas être sacrifiés sur l'autel de taux de retour pour les États membres.
Le budget européen est à nouveau réduit, en particulier dans ses dimensions liées au Green Deal. Et comment peut-on concevoir, à l'heure où le monde s'inquiète d'une deuxième vague de contamination, que les dirigeants européens coupent drastiquement dans les programmes de recherche ou de santé publique ?
La présidente de la Commission, qui tout ce week-end a bataillé aux côtés de Charles Michel, reconnaît que ce budget n'est pas parfait.
This MFF is a difficult pill to swallow. And I know this house feels the same way.
Le Parlement souhaitait aussi pouvoir refuser des fonds européens à des pays qui bafouent l'état de droit. Selon Charles Michel, l'accord le prévoit, les députés n'en sont pas convaincus. D'ici la fin de l'année, ils devront se prononcer pour ou contre le budget pluriannuel. Ils menacent de le rejeter s'il n'est pas amélioré.
Et c'est en français que nous allons entendre Charles Michel ce soir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, accord historique, le mot a été souvent répété. Historique, c'est un mot souvent galvaudé. Alors, qu'est-ce qui fait que là, on a passé un cap inédit ?
Bon, c'est vrai que parfois, on abuse du mot historique, mais ici, ce qui se passe est unique dans l'histoire européenne, puisque pour la première fois, les 27 États membres ont décidé d'emprunter ensemble beaucoup d'argent, 750 milliards d'euros, pour investir ensemble et pour partager ensemble les mêmes priorités, notamment la priorité climatique et la priorité digitale.
Mmh. On en reparle dans un instant. Alors, ça a été difficile. Hein, on a dit une petite centaine d'heures de négociations. Est-ce que l'expérience belge du compromis vous a aidé dans cette mission ?
Non, ça a été extrêmement difficile. Ça a vraiment été un combat politique épique et certainement à différents moments tendu de la négociation quand on pensait qu'on était proche d'une rupture. Probablement l'expérience belge, nous savons que les négociations belges sont parfois longues, durent pendant la nuit, nécessitent beaucoup de combativité et peut-être aussi un peu de créativité et d'innovation. Je pense que ça a été utile.
Mmh. Pour rassembler des points de vue, que l'on sait assez divergents. Alors, pour les citoyens belges qui nous regardent, qu'est-ce que ça va changer ? Parce qu'on sait que l'Europe, c'est parfois un petit peu loin de nos préoccupations, pas toujours simple à comprendre. C'est assez technique, tout ce qui s'est passé pour obtenir cet accord. Qu'est-ce que ça va changer dans la vie des citoyens belges ?
Mais le point le plus important, c'est que l'Europe investit et va investir comme jamais auparavant, puisqu'il y a effectivement, cela a été dit, un budget européen pour 7 ans de 1 074 milliards d'euros, auquel nous ajoutons 750 milliards d'euros. Et on avait déjà, depuis les derniers mois, depuis le début de la crise, ajouté 540 milliards d'euros dans l'économie. Donc c'est beaucoup d'argent qui va devoir être bien investi par l'Union européenne, par les institutions européennes, mais également par les États membres qui vont bénéficier largement de ces moyens. On va devoir veiller à ce que cet argent soit bien utilisé, qu'il aille vers ce qui a une valeur ajoutée pour les citoyens. On sait que cette crise du Covid a un impact et va avoir un impact sur le plan économique, sur le plan social. Soutenir les PME, soutenir les agriculteurs, soutenir des projets, contrairement à ce qui était indiqué par exemple Erasmus, les moyens ne vont pas baisser. Ils ont augmenté à concurrence de plus de 50% par rapport aux moyens européen actuel. En termes de santé, on multiplie par 4 dans le budget européen, sachant que l'Europe a des compétences limitées aujourd'hui en matière de santé. Donc c'est beaucoup de moyens qui vont avoir un impact pour les entrepreneurs, pour les étudiants, du soutien aussi à la formation. La question digitale va nous amener à devoir mieux organiser des formations continuées, par exemple.
Alors pour la Belgique, on parle d'environ 5,5 milliards d'euros pour financer un plan de relance qui reste à établir, hein, puisqu'on n'a pas encore un gouvernement qui le fera. Est-ce qu'on peut dire que la Belgique est gagnante, en fait, dans cette négociation? On n'a pas obtenu de rabais, par exemple, à la contribution du budget, comme les Pays-Bas.
La Belgique a des résultats très importants pour elle, puisque une mesure qui était très importante pour la Belgique, c'était la hausse des droits de douane. C'est un peu technique, mais ça pour comprendre que ça va alimenter le financement de la Belgique de manière assez spectaculaire, très certainement, dans les prochaines années. On a mis en place aussi un fonds de 5 milliards d'euros au total pour les conséquences du Brexit, parce qu'on sait que la Belgique est un des pays européens qui sera certainement parmi les plus touchés dans le cadre du Brexit, parce que le Brexit, qu'il y ait un accord ou qu'il n'y ait pas d'accord, il y aura des conséquences. La situation ne sera pas la même à partir de l'année prochaine. Et puis surtout, on a tenté de se mobiliser pour continuer à soutenir nos agriculteurs. On sait que la Belgique dispose de soutien européen important. Ça n'est pas simple, parce qu'il y a des pressions très fortes sur les budgets agricoles. On a eu un débat et un dialogue très régulier avec les autorités belges pour tenter de prendre en considération toutes les demandes légitimes exprimées par la Première ministre.
Alors, vous parliez de conditions pour dépenser ces budgets. Si on veut résumer ces conditions, quelles sont-elles? Est-ce que si des entreprises qui investissent encore dans les énergies fossiles, par exemple, est-ce que c'est des entreprises qui peuvent être soutenues?
Non, la réponse est très très claire. Nous avons décidé que 30% du budget total, c'est-à-dire à la fois le budget et ce fonds exceptionnel de relance, donc le paquet financier total, 30% au moins devra être mobilisé avec un impact direct favorable pour faire reculer la menace climatique. Vous savez qu'au mois de décembre l'année passée, on a décidé, nous sommes les premiers dans le monde à faire de l'Europe le premier continent neutre sur le plan climat, et donc nous sommes très cohérents. L'argent européen doit aider davantage le soutien pour faire reculer cette menace climatique, pour développer l'économie circulaire, par exemple, ce qui va être, à mon avis, très important. Et puis, il y a un autre point. Nous voulons, avec ces investissements, encourager des réformes dans les pays européens, et notamment des réformes pour saisir l'occasion de cette transition digitale, cette transition climatique, pour doper l'activité, pour innover, pour créer davantage d'emplois dans les nouveaux métiers, dans les métiers de demain.
On entend que vous êtes très satisfait, cela dit, on l'a entendu dans la séquence qui précède l'interview. Au Parlement, il y a quand même beaucoup de voix qui s'élèvent. Parce que vous parlez d'une Europe robuste avec un contrat de mariage, des vœux renouvelés pour 30 ans. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'important qui s'est passé. Mais en même temps, c'est des budgets qui vont être dépensés au niveau national. Et il y a pas mal de projets fédéraux, de projets européens qui ont quand même vu leur budget raboter, ça on ne peut pas le nier.
Mais vous savez, le Parlement européen a renvoyé deux messages très forts. Le premier message, c'est un soutien massif au caractère historique de l'accord qui est intervenu. Ça, c'est une bonne chose. On a le soutien du Parlement européen par rapport à cela. Et s'agissant du budget européen, je ne parle pas ici du fonds de relance, c'est d'une partie seulement des moyens qui ont été mobilisés. C'est très légitime. Les parlementaires européens ont exprimé leur ambition, et je prends les ambitions du Parlement européen comme des encouragements à continuer à travailler dans les prochains mois pour améliorer les décisions prises sur le plan européen. On va avoir un dialogue très, très étroit, très intense avec le Parlement européen. Simplement, il y a sans doute une